Monsieur Dan, bonsoir et merci de rester fidèle au programme du studio Kalangou. Tout de suite, les titres. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la diversité culturelle. Suivez dans ce journal quelques faits historiques retraçant l'importance du brassage culturel au Niger. À Tillaberi, un système d'évacuation gratuite des malades vers les centres urbains de santé a été mis en place. Les détails dans cette édition. Puis direction Kélé à la découverte de l'internat des jeunes filles créé il y a 3 ans. C'est la partie magazine de cette édition. Chaque année, le 21 mai, l'UNESCO organise la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Ainsi, l'organisation onusienne célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Au Niger, la diversité culturelle et surtout le brassage ont toujours été le socle de la cohésion sociale. Rachid Rahman, acteur culturel, revient sur quelques faits historiques marquants. Il est interrogé par le studio Kalangou.
Le Niger est fier de sa richesse culturelle. De tous les temps et de toutes les gouvernances, la culture a été le socle sur lequel avaient reposé les conceptions politiques du pays, du régime de Yori, avec la jeunesse pionnière jusqu'à Kounché, la Samaria, les fêtes tournantes du 18 décembre. Vous avez vu le brassage qu'il y a eu pendant les festivals nationaux de la jeunesse. Quand il s'était agi de la rébellion, vous connaissez la panoplie de chansons qu'il y a eu par rapport à l'appel lancé aux frères qui ont pris les armes, de les déposer, ça a été d'un effet magique extraordinaire. Le socle de l'unité nationale pour toute nation du monde ne peut s'adosser qu'à la culture.
Crise interne au Conseil militaire suprême CMS du Niger, c'est le nom du nouvel ouvrage du journaliste et écrivain nigérien Sédik Abba, sorti dans ce mois de mai. C'est un ouvrage de 12 chapitres qui relate l'histoire du Niger. Pour plus de détails, écoutons Sédik Abba, joint par Tarnan Foudé Ahmed.
C'est un ouvrage de 12 chapitres qui parle principalement de la période du CMS entre 1974 et 1987, date du décès du président Séni Kounché. L'occasion aussi pour parler d'autres affaires importantes. La mort de Aïssa Diori en 1974, l'arrestation de Sani Souna Sido. Je reviens aussi sur les préparatifs du coup d'État en 1974. Qu'est-ce qui fait sa singularité? Et j'aborde aussi la question spécifique de la relation entre Séni Kounché et Léopold Kaziandé, qui a été son enseignant avant de devenir ministre de Diori. Et je termine le livre un peu par ce que j'appelle la Kounché-mania, la nostalgie de Kounché que l'on observe aujourd'hui au Niger. C'est une histoire qui concerne le Niger et les Nigériens. Il est important pour moi que ce soit accessible à Niamey, que le livre soit disponible.
De nombreux blessés, mais pas de morts, c'est le bilan d'un grave accident survenu hier matin impliquant le bus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'accident a été causé par une défaillance des freins du véhicule transportant de nombreux étudiants. Malanwoli Abacha Ari, secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants à l'université de Niamey, nous parle de la situation des blessés au micro d'Ali Moukaila Ousseini.
Ce sont les freins qui ont lâché, les camarades ont paniqué. Beaucoup d'entre eux ont commencé à sauter du bus. Ce qui a conduit à la situation que vous entendez, accident des bus à l'université. Le chauffeur a pu reprendre le contrôle du bus, il a pu arrêter le bus. Au total, on a enregistré 37 blessés. Parmi les 37 cas, la plupart, c'est quelques conditions légères. Il n'y a pas eu beaucoup de cas graves. Mais le personnel médical de l'hôpital national a pu se mobiliser autour de ces camarades-là. On leur a fait les premiers soins et à l'heure actuelle, il y a beaucoup qui sont libérés. Il n'y a qu'un cas vraiment qui est dans un état critique. Déjà, les médecins s'en occupent. Il y a aussi une de nos camarades qui est dans une situation, elle aussi, elle a passé la nuit là-bas. Mais quand même, le cas est en train d'être pris en charge par les médecins de l'hôpital.
Direction Tillaberi, où l'autorité régionale de santé a créé un système d'évacuation gratuite des malades en installant des comités de gestion en collaboration avec la population. Ceci pour faciliter le transfert des malades vers les centres de santé appropriés dans toutes les communes et départements. Le directeur régional de la santé publique, Dr Idrissa Abdourahmane, explique le fonctionnement Au micro d'Alamine Ouachar et Assoumane Aboubakar.
Il y a un système de référencement qui est mis en place à tous les niveaux. Et il y a eu vraiment suffisamment d'ambulances qui ont été mises en place au niveau des structures. Et il y a cette organisation que les communautés font au niveau de leur structure pour permettre l'achat de ce carburant en cas d'évacuation. Il y a ce qu'on appelle le système des centimes additionnels lors des consultations. Chaque consultant paye 100 francs de plus. Ça dépend de comment les populations, au cours de leur réunion, ils ont arrêté pour pouvoir fixer le montant à payer de 100 à 200 francs. Et c'est ça qui constitue les caisses de référencement. Et d'autres aussi sont appuyées par des partenaires. Et il y a aussi des bonnes volontés qui ont appuyé des structures. Et nous avons vu que ça marche très bien. Mais sinon, je puisse vous dire qu'au niveau de tous les départements, il y a un système bien organisé de référencement, même dans les zones d'insécurité.
Les deux centres de santé intégrés CSI de la ville de Tessawa, Guindawa et Chiziko enregistrent une baisse de fréquentation des mamans. Celles-ci n'amènent pas leur bébé pour des vaccins préventifs dès la naissance. Ibonuhu, responsable sanitaire, estime qu'il s'agit d'un manque de sensibilisation. Il est au micro d'Ilia Moumouni.
Dès les premières secondes qui suivent l'accouchement, il y a une vaccination du BCG qu'on fait aux nouveau-nés et des gouttes orales également. On fait ces vaccinations à 3 reprises et il est préférable de commencer depuis les premières 6 semaines qui suivent l'accouchement. Et on finit ce processus quand le bébé aura atteint ses 14 mois. Si on amène un enfant pour ces vaccinations-là après ses 1 an, il est déjà trop tard. On peut juste lui faire les vaccinations de la méningite, la rougeole ou de la fièvre jaune. Le manque de sensibilisation fait qu'on empêche certaines mamans d'amener leurs enfants pour les vaccinations. Et pour cela, nous essayons d'attirer l'attention des maris sur leurs responsabilités. Ils doivent eux-mêmes inciter leur épouse à amener les enfants pour les vaccinations préventives.
Plus au nord, à la veille de la saison des pluies, les habitants de la ville d'Arlit lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités, que celles-ci prennent des mesures vis-à-vis de certaines personnes prétextant faire des travaux, bloquent le passage des eaux de ruissellement. Moutari Abdoulaye nous a recueilli des témoignages des citoyens de la ville minière.
Les gens qui versent de l'argile partout sur les voies doivent laisser cette pratique injuste. Les chefs de quartier doivent aussi veiller à ce que les voies soient praticables, car c'est une tâche qui les
revient. Les rues sont faites pour faciliter les mouvements des personnes. Ce n'est pas fait pour qu'on y verse de l'argile ou autre déchet.
Ils
doivent commencer dès maintenant à contrôler chaque coin, chaque virage, partout où ils trouvent des dépôts d'argile, de mettre des engins pour dégager ce bloc.
Pour des raisons de sécurité et de santé publique, l'administrateur délégué de Gaïa interdit la culture de semences à croissance élevée dans les parcelles vides situées en plein centre-ville ainsi qu'à proximité des postes de police. Cette mesure vise à prévenir les risques potentiels liés à la dissimulation d'activités illicites et à assurer une meilleure visibilité pour les forces de l'ordre, tout en éliminant les dangers sanitaires associés à la prolifération de certaines bactéries. Bachir Moussa Sala, administrateur délégué de Gaïa, il est au micro de Fadel Alou.
Bientôt, c'est la saison hivernale. Donc les gens qui sèment un peu dans les écoles, les services, les alentours de la ville ou dans les parcelles vides, nous les invitons vraiment à ne pas semer le mil ou le sorgho, de semer peut-être l'arachide, ou l'haricot. Par exemple, pour les maisons clôturées, quand c'est le mur, ça amène beaucoup de moustiques. Nous appelons aussi ceux qui ont des champs juste à côté des postes de police, comme le PICA, à mettre 500 mètres entre eux et le poste de police pour semer. Et ceux qui doivent semer aussi ne peut être que de l'arachide. En tout cas, quelque chose, quand vous le semez, dès que de loin, les militaires peuvent voir ce qui vient. Mais on ne peut pas semer. Les gens vont traverser par les trous pour venir les attaquer. Vraiment, c'est comme si nous avons été complices. Donc, dans le cadre de leur mission, c'est la chose qu'on puisse faire pour eux, pour les aider aussi. Et nous allons veiller à ça, pour que vraiment les gens respectent ça.
Face au manque de pâturage cette année et la mort de nombreux animaux dans certaines zones de la région d'Agadez, la coordination des organisations de la société civile de la région lance un appel aux autorités compétentes pour venir en aide aux éleveurs, mettre à la disposition des éleveurs très urgemment des aliments pour le bétail. Amodi Arandicho, vice-président de la coordination au micro de Moussa Maman.
Nous avons lancé cette alerte suite aux informations qui nous sont parvenues, faisant état des morts d'animaux, surtout des bovins, dans la zone d'Ingal et d'Adrabissene. Nous avons aussi la certitude que le pâturage manque dans l'Aïr. Les seules poches où il y a du pâturage, c'est le nord du département d'Ingal et l'ouest et le sud-est du département d'Adrabissene, où la pression sur les ressources fourragères est très importante. Cette concentration de cheptels entraîne la prolifération des maladies et la destruction rapide du couvert végétal. Les aliments pour bétail tardent à parvenir aux vrais bénéficiaires finaux. Nous demandons aux autorités compétentes de mettre de l'ordre dans cette gestion et de prendre toutes les mesures idoines pour que les aliments bétail soient acheminés et distribués dans les meilleurs délais et au prix officiel.
Parlons entrepreneuriat dans ce journal. Les femmes qui pratiquent la poterie sont des artisanes talentueuses. Elles façonnent l'argile pour confectionner de magnifiques objets utilitaires et décoratifs. Sakina Idi, une native de Roualbellay, rencontrée au marché de Kodo sur la route de Dosso, explique le processus de fabrication des canaries au micro de Oumu Oumaru.
C'était nos grands-mères qui fabriquaient les canaries. Après, nos mères ont pris la relève. La matière de base est de l'argile en poudre qu'on mélange avec la poudre de morceaux d'anciens canaries et de l'eau. Une fois ce mélange assez trempé, il faut le pétrir à la main jusqu'à avoir une pâte hétérogène souple qu'on façonne en plusieurs boules. Ces boules sont bâties avec l'outil que nous appelons dogon dogon en zarma pour lui donner forme à partir de l'intérieur. De l'extérieur, nous utilisons le filant filant pour améliorer la forme. C'est dans le Boboy que nous partons chercher de l'argile dans le village de Burkwargi, Zagore ou Ngonga, parce que nous n'en avons pas chez nous. L'extraction se fait avec des tasses dans des trous et transportée par des charrettes. Par jour, je peux fabriquer 4 à 5 canaries. Nous avons beaucoup bénéficié de cette activité à travers l'achat d'animaux domestiques.
La rubrique « Femmes et bien-être » de ce mardi traite de la situation des jeunes filles de l'internat de Kélé, région de Zinder. Créée en 2021, la première promotion est en classe de 4e. L'internat de Kélé constitue aujourd'hui un cadre de maintien de la jeune fille à l'école. Suivons le reportage de notre envoyé spécial Habibou Garba.
Nous sommes dans la cour de l'internat des jeunes filles de Kélé. C'est ici que vivent environ 300 jeunes filles dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. Ces filles sont venues des villages environnants de la commune. Elles sont des élèves de la 6e à la 4e du CES, un mode de vie très apprécié par les jeunes filles qui se voient déjà réussir. Voici l'impression de quelques filles.
J'aime étudier ici. Chez les gens, le temps manque vraiment. Ici, on se retrouve mieux et on nous fait des exercices, mentorat et le suivi. Je préfère mieux étudier ici parce que chez quelqu'un d'autre, on n'arrive pas à être concentré pour pouvoir réviser nos leçons.
Outre les conditions d'études adéquates, ces jeunes filles sont également suivies par les surveillantes qui les initient à d'autres tâches. La surveillante Hawa Bari.
On les surveille. Elles font le nettoyage de leur chambre, mais aussi des douches, surtout pour les douches. Parfois, il faut qu'on les assiste. Aussi, on les aide à faire leurs exercices de maison. Et elles consacrent la nuit pour apprendre leurs leçons.
Certes, elles sont nourries, logées et vêties par l'internat. Aujourd'hui, elles font face à plusieurs difficultés. Écoutons les explications de Ibrahima ou le proviseur du CES.
De la rentrée, on est confronté vraiment à quelques évasions des filles, dont les parents surtout sont réticents. Il y a quelques cas d'évasion des filles qui fuient pour aller chez elles et il faut passer une semaine, deux semaines avant de répondre à nos convocations. Et la deuxième difficulté, c'est que les élèves qui nous viennent de l'école primaire, nous avons beaucoup de filles qui ne savent ni lire ni écrire. Que ça là nous donne vraiment des fils à retordre.
Afin de mieux protéger ces jeunes filles, le chef du canton du Koutous a pris des mesures contre surtout les hommes indélicats.
Point final de cette édition de ce mardi 21 mai 2024. Tout de suite, le journal en tamashek avec Tarnan Foudey Ahmed. Bonne suite de programme.